Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
C'est assez bref, mais précis et concis. Et j'aimerais vous laisser ce soir avec un réel désir de comprendre la saison dans laquelle nous vivons. Après le passage de pasteur Luc, en fait, je me suis rendu compte que nombreux sont ceux qui ont été bénis, je pense. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a été bénis par la parole de Dieu. Mais il y a parfois, ça peut arriver, dans une saison spirituelle comme celle que nous avons en ce moment, il y a ce qu'on appelle l'effet inverse. C'est qu'en fait, tu prends la parole de Dieu, tu te sens misérable. Je ne sais pas si tu as vécu ça. Tu te dis, mais ok, d'accord, c'est super, mais c'est quoi mon champ ? Ou sinon, Seigneur, je veux bien, mais maintenant que j'ai mon champ, comment je vais faire pour vraiment le cultiver ? Ou je ne sais pas du tout quoi faire. Et donc, il y a cette peur panique qui revient attaquer ce que le Saint-Esprit a placé dans ton cœur par la semence de Dieu. Et c'est biblique, Jésus parle des différentes terres, il parle de lorsque le semeur sort pour semer, il sème la semence, et il parle des différentes saisons où l'ennemi vient et vient voler la semence. Et mon cœur ce soir de frère, de leader, de pasteur, de berger, de père dans la maison, est de vous aider à préserver la semence que vous avez reçue le week-end dernier, mais aussi de vous encourager à être efficace dans l'art de prendre position dans ce que Dieu vous a donné. Et le but de mon message ce soir, le titre de mon message, j'ai cherché un titre qui me paraissait le plus simple à retenir, est le suivant. Laisse ton Dieu tendre l'embuscade à ton ennemi. Laisse ton Dieu tendre lui-même l'embuscade à ton ennemi. Et nous allons voir ensemble ce soir quatre principes que si vous les appliquez, si vous appliquez ces principes fondamentaux, si vous réalignez votre cœur, si je réaligne mon cœur, si j'aligne mon cœur à la saison dans laquelle je me trouve, on va se rendre compte rapidement que les fruits sont déjà présents. Et il y a beaucoup de choses sur mon cœur ce soir, je vais essayer d'être précis parce que mon cœur déborde d'un désir ardent de vous voir équipé à prendre la place que Dieu a pour vous en ce moment dans le monde de l'esprit. Et ce n'est une parenthèse dans la série « Régner avec Christ », d'accord ? On y retournera parce qu'il y a des messages extrêmement importants d'ici à Noël. Et ce soir donc, c'est « Laisse Dieu tendre l'embuscade à ton ennemi ». Regarde ton voisin, dis-lui ça, dis « Laisse ton Dieu tendre l'embuscade à ton ennemi ». Alors une parenthèse importante, ton ennemi n'est pas ton mari, ton ennemi n'est pas ton voisin, ton ennemi n'est pas le président, ton ennemi n'est pas le patron. Nous parlons d'un ennemi spirituel ce soir. Nous ne faisons pas d'amalgame, nous aimons les gens, mais nous sommes en guerre contre les esprits mauvais dans les lieux célestes, nous sommes en guerre contre l'ennemi et son armée de démons, mais nous aimons les gens. Le premier point ce soir, le premier principe fondamental que j'ai pu apprendre en marchant et en fréquentant des hommes de Dieu tels que Marc Bredenkamp ou Steve ou Luc ou Gabriel ou d'autres hommes de Dieu que j'ai écoutés et j'ai appris de la parole de Dieu, ceux qui m'ont vraiment aidé à comprendre ce principe ont vraiment sauvé ma vie, littéralement. Et le premier principe ce soir est le suivant, se trouve dans 1 Samuel 11, chapitre 1. Où il est dit, au printemps suivant, à l'époque, je crois qu'en fait c'est 2 Samuel, hein, mais c'est pas grave. Au printemps, le verset est bon, mais la référence n'est pas bonne. Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Ammonites et ils mirent le siège devant Rabba, leur capitale. David était resté à Jérusalem. La première chose à ne pas faire, si tu veux que Dieu tende une embuscade à ton ennemi, c'est de fuir la bataille à laquelle tu fais face. Ne fuis pas la bataille qui est prévue pour toi. Écoutez bien ça. Il y a des combats et des batailles qui ne sont pas prévus pour nous. Mais il y a des combats et des batailles qui sont prévus pour nous, qui sont nécessaires pour nous. Si nous n'avons pas les batailles orchestrées ou permises par Dieu, nous ne pouvons pas vivre les victoires voulu par Dieu. Et lorsqu'un chrétien évite les batailles, il évite les victoires. Et une église qui évite les conflits et les batailles sera une église faible. Et donc ce soir, le premier point, c'est de ne pas faire comme David. Écoutez bien ça. David a perdu la bataille avec ses yeux. Ce qui lui a valu de perdre la bataille sur son cœur. Et tout ça est arrivé parce que David a refusé d'être dans la bataille qui lui était réservée. Que c'est l'histoire. David, au lieu d'être au front, a dirigé son armée, refuse d'aller dans sa bataille. Et il se trouve dans son temple. Et si vous lisez le reste du chapitre, vous allez voir que David a fait une sieste le soir. Et il se lève après la sieste. Et il va sur son toit et il marche. Et il voit une magnifique femme qui tout d'un coup a envie de prendre une douche. Enfin un bain. Bien sûr, elle est nue. Et David perd la bataille avec ses yeux. Écoutez bien ça. Parce que si tu ne fais pas face à la bataille qui est prévue pour toi, tu placeras tes yeux sur n'importe quelle autre cible. Et si David avait été au combat, il aurait eu ses yeux sur les cibles de Dieu. Mais comme il n'est pas au combat, il est là où il ne devrait pas être, il n'est pas sur la bonne ligne de front, ses yeux voient la mauvaise cible. Et le principe ce soir est extrêmement important. Lorsque nous refusons de faire face, écoutez bien ça, Église, hein, lorsque nous refusons de faire face au combat auquel nous sommes assignés, nous nous positionnons pour faire face au combat pour lesquels nous ne sommes pas préparés. Lorsque je refuse de faire face au combat, à la bataille qui m'est assignée, alors je me positionne pour faire face à une bataille pour laquelle je ne suis pas préparé. Dès l'instant où je refuse les combats pour lesquels je suis né, je me soumets à tout ce pourquoi je ne suis pas préparé. Et c'est pour ça que de nombreux chrétiens ne vivent pas de victoire en victoire et de gloire en gloire, parce qu'ils évitent les batailles pour lesquelles ils sont nés et se retrouvent face à des batailles pour lesquelles ils ne sont pas prêts. Prenez un exemple très simple, c'est comme si moi, tout d'un coup, je me dis, j'ai envie de faire des grandes conférences en Birmanie. Et je décide d'aller en Birmanie, parce qu'en Birmanie, il y aura 10 000 personnes par soir. Mais Dieu, lui, m'a appelé à faire des batailles pour la francophonie. Et je sors de la francophonie et je vais m'attaquer à la Birmanie. Je vais faire face à des combats pour lesquels je ne suis pas prêt. Mais si je reste dans la zone que Dieu m'a assignée, si je reste au front pour lequel Dieu m'appelle, si je fais face à la bataille à laquelle Dieu m'appelle, je suis équipé par Dieu pour cette bataille. Alors c'est quoi une bataille selon le cœur de Dieu? Par exemple, c'est ta famille. Si tu refuses la bataille et le combat pour gagner ta famille, pour la préserver, alors tu vas forcément faire face à d'autres batailles pour lesquelles tu n'es pas prêt. Si je ne me bats pas pour construire mon mariage et que je relâche mes forces et qu'au lieu d'être fidèle à ma femme, être présent le soir après le boulot, passer du temps avec elle, la rendre heureuse, la rendre glorieuse sur le plan de Dieu, construire ma femme dans l'esprit, dans les émotions, être à ses côtés au fur et à mesure que la vie passe et que je ne suis pas à ma place face à la bataille qui m'est assignée, la bataille pour faire de ma femme une femme glorieuse. Si je ne suis pas à cette place-là, je me retrouverai tôt ou tard dans une bataille qui n'est plus la mienne, qui n'est pas la mienne, et je me retrouverai face à une bataille pour laquelle je ne suis pas préparé. Donc, premièrement, ce soir, écris quelque part si tu peux, je choisis de faire face aux batailles que Dieu a pour moi. C'est un faux concept que de croire que la vie chrétienne est une vie sans bataille. Non, la vie chrétienne est une vie avec plein de batailles, mais surtout plein de victoires. Tu ne peux pas être vainqueur sans bataille. Et je comprends que c'est un message simple, mais je vous encourage à repenser à ce message dans votre circonstance présente, en tant que mari, en tant que femme, en tant que famille, église, en tant qu'église dans la société. Nous avons des combats à relever en ce moment, pas dans 25 ans. en ce moment. C'est en ce moment qu'il faut encourager nos jeunes. C'est en ce moment qu'il faut encourager la France. C'est en ce moment qu'il faut aimer les voisins. C'est en ce moment qu'il faut faire face à nos batailles. C'est en ce moment qu'il faut gagner son mariage. C'est en ce moment qu'il faut gagner ses enfants. En ce moment, il y a des batailles et des combats pour lesquels nous sommes nés. La deuxième chose importante ce soir, c'est une fois que tu as accepté les batailles que Dieu a pour toi, une fois que tu comprends qu'il y a des batailles que Dieu a réservées pour toi, alors tu te qualifies pour recevoir l'aide de Dieu. Le deuxième principe ce soir est le suivant. Lorsque je fais face aux batailles que Dieu a prévues ou permises pour moi, j'invite Dieu à tendre une embuscade à mon ennemi. Tournez avec moi dans vos Bibles, s'il vous plaît, ou sur vos écrans, dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 14. On va lire du verset 14 à 23. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur Yahaziel, fils de Zacharie, descendant de Benaïa, de Yéel et de Matania, un lévite de la lignée d'Azaph au milieu de l'assemblée. Ça parle d'une lignée d'adorateurs. Yahaziel dit, « Soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare l'Éternel, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée. » Car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Quand tu acceptes les combats que Dieu a pour toi, tu acceptes que Dieu se batte à ta place. Principe extraordinaire, mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela. Quand je prie le matin, je dis « Seigneur, quelle que soit la bataille que j'ai à faire face aujourd'hui, je prie pour que ce soit une bataille qui soit à ta gloire, une bataille dans laquelle tu vas te battre. Une bataille dans laquelle je n'aurai qu'à faire une seule chose, te regarder tendre une embuscade à mon ennemi. Mais si par malheur je fais des mauvais choix, je prends des mauvaises décisions, et si je choisis des mauvais combats, je risque de ne pas avoir l'aide de Dieu comme je le souhaiterais. Parce que mon ami, si Dieu aidait tout le monde, n'importe quand, n'importe où, dans n'importe quelle circonstance, tout le monde serait sauvé, tout le monde aurait des victoires. Or, il est clair et net que certains chrétiens n'ont pas autant de victoires que d'autres. Ça ne change rien sans l'amour. C'est simplement le fait que si tu choisis le mauvais combat, il y a une repentance à faire. Mais si c'est le bon combat, Dieu est présent. Église, voici ce que j'ai noté pour vous ce soir, ce que j'ai appris dans ma vie chrétienne. Écoutez bien, moi ça m'encourage. Lorsque je suis à ma place, tout le monde dit « à ma place ». Lorsque je suis à ma place, en train de faire face à la bataille ou au combat que Dieu a pour moi, j'obtiens plus de victoires, presque sans effort, que si j'étais en train de me battre avec toutes mes forces dans un combat qui n'est pas le mien. Je vais redire ça. Celui qui se retrouve dans un combat qui est pour lui, obtient des victoires presque sans effort. Contrairement à celui qui donne toute son énergie, toutes ses forces, toute sa fougue, toute sa passion dans un combat qui n'est pas le sien. C'est pour cela que plusieurs églises, plusieurs chrétiens grandissent plus vite, vont de gloire en gloire, ont une autorité qui grandit, ont un impact, sont bénis parce que quelque part, ils commencent à s'aligner avec Dieu et se placent exactement là où Dieu veut qu'ils soient. Ils se battent pour leur famille, ils se battent pour leur église, ils se battent pour leur nation, ils se battent pour leurs voisins, ils se battent pour leur propre combat. Et Dieu dit maintenant, parce que comme tu acceptes d'être à ta place, je vais me battre pour toi. Et Dieu tend une embuscade quand c'est comme ça. Dieu dit, tu sais, lorsque tu es synchronisé avec moi, la victoire ne peut pas t'échapper. Lorsque tu n'es pas synchronisé avec moi, la victoire peut t'échapper. Après on dit, Seigneur, tu ne m'aimes plus ? Tu m'as abandonné ? Non, non, non. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas censé être là. Pense à David. David, si vous connaissez l'histoire, David, une fois qu'il est tombé avec Bathsheba, fait tuer le mari de Bathsheba. Parce qu'une vie, écoutez bien ça, Église, une bataille qui n'est pas la tienne et que tu choisis de faire quand même, engendre d'autres batailles qui ne sont pas les tiennes. Au verset 16, il dit « Demain matin, marchez contre eux, ils vont gravir la montagne de la fleur, vous les rencontrerez au bout du défilé à l'entrée du désert de Yeruel, vous n'aurez même pas à combattre. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position, extrêmement important ce soir dans l'esprit. Contentez-vous de prendre position, ça veut dire prends la place que Dieu te donne dans ta famille. Prends la place que Dieu te donne dans ton entreprise. Prends la place que Dieu te donne dans ton église. Prends la place que Dieu te donne. Fais face à tes propres batailles. Ne cherche pas le combat d'un autre. Cherche ton propre combat. Bats-toi pour ce que Dieu te donne, demande de te battre. C'est ton champ, c'est ton combat, ta bataille. Dieu est avec toi. Si tu fais cela, si tu prends position, si tu te tiens là, vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Gens de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre, l'Éternel sera avec vous. C'est extrêmement puissant. Verset 20, le lendemain matin, ils se levèrent tôt et les hommes se mirent en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, hommes de Juda, habitants de Jérusalem, faites confiance à l'Éternel votre Dieu et vous serez invulnérables. Faites confiance à ces prophètes et vous aurez la victoire. Verset 21, ils s'étaient concertés avec le peuple, ils avaient placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Ils se mirent en route devant les soldats en armes en chantant, louez l'Éternel car son amour durera toujours. Au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, tout le monde dit au moment, c'est pas avant ? Et ce n'est pas après. Au moment, tout le monde dit au moment. Au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel plaça une embuscade. Quand je fais face aux batailles que Dieu a pour moi, que je prends place là où Dieu veut que je sois, que je garde ma position, que je lui fais confiance réellement, que j'ai confiance en Dieu, et que je me mets à obéir à ce qu'il me demande de faire, et que je décide, parce que c'est la seule et puissante arme face à l'ennemi, de louer Dieu, l'expression de ma foi, d'adorer Dieu, Dieu tend une embuscade. L'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites, les habitants des monts de Séir, qui venaient attaquer Juda de sorte qu'ils furent battus. Verset 23, les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants des monts de Séir et les exterminèrent. Quand ils en eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres jusqu'à s'anéantir. L'ennemi s'entretue face à celui qui se tient devant Dieu et qui accepte le combat que Dieu a pour lui. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est un message prophétique, c'est juste un moment pour vous dire, Église, quelque chose peut se passer à n'importe quel moment de l'instant où tu te positionnes selon Dieu. Et l'instant où tu te positionnes selon Dieu, il y a des soudains. Ton fils dans la drogue et soudainement, il change. Parce que tu t'es positionné selon Dieu. Le combat n'est plus le tien, c'est le sien. Verset 3, troisième principe fondamental, écoutez bien ça. L'embuscade de Dieu contre tes ennemis, est libéré par ta louange. L'embuscade, et là je vais vous donner un principe fondamental, l'embuscade que tu libères contre ton ennemi, elle est libérée par ta louange. Lisez avec moi ce passage, vous êtes prêts? Vous êtes assis? Ésaïe 30. L'Éternel fera retentir sa voix dans toute sa majesté. Il montrera son bras prêt à frapper à cause de l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. Ça veut dire qu'en fait, tout d'un coup, c'est extraordinairement puissant, il y a plein de trucs qui se passent, le bras de Dieu est là, prêt à frapper. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'ennemi tremblera. À la voix de l'Éternel, l'ennemi tremblera. L'Éternel le frappera à coups de bâton. Écoutez bien. Et à chaque coup de bâton qui lui est destiné et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra les tambourins et les harpes. Dans l'hébreu, ça veut dire la main de l'Éternel va frapper ton ennemi au rythme de ta louange. C'est pour ça que lorsque j'adore Dieu, lorsque je loue Dieu, je le fais vraiment. Parce que lorsque je me mets à louer Dieu vraiment, le bras de l'Éternel frappe mon ennemi. Église, si vous captez ça ce soir, l'ennemi va commencer à prier. Est-ce que vous savez que le diable a la foi ? Le problème des démons, ce n'est pas un manque de foi, les démons ont la foi. Vous êtes au courant de ça ou pas ? Qui n'est pas au courant de ça ? Qui sait pas ça ? N'ayez pas honte. Qui ne sait pas que les démons ont la foi ? Ouais. La Bible dit que les démons ont la foi en Dieu, mais ils tremblent. Le problème du démon, ce n'est pas qu'il n'a pas la foi, c'est qu'il n'obéit pas. Ok, bon. Ça frappe là. Écoutez ça, c'est comme si Dieu dit... Non, c'est ce que Dieu dit. Il dit, je vais combattre pour toi parce que tu as accepté mes combats, parce que tu as accepté de prendre ta place là où je veux que tu sois, parce que tu ne veux pas prendre d'autres combats qui ne sont pas les tiens, tu vas être prêt pour ton combat. C'est bien, c'est là que je veux que tu sois. Tu es présent ce soir pour ta famille, pour ton église, pour ta nation. C'est bien mon fils, c'est bien ma fille, prends place. Maintenant regarde, dès l'instant où tu vas commencer à me louer et m'adorer, je vais tendre une embuscade à ton ennemi. Et quand tu vas commencer à m'adorer, chaque fois que tu vas m'adorer, le rythme de ta louange va donner le rythme du marteau de ma main. Dès l'instant où tu m'adores, bam, que tu veux comme rythme, mais le rythme, et c'est spirituel, le rythme de ta louange, de ton adoration frappe ton ennemi. Tous les hommes et toutes les femmes de Dieu que j'ai rencontrés qui ont un impact dans le monde spirituel sont des adorateurs. J'ai presque fini. Donnez-moi encore 3 jours et c'est bon. Il y a une connexion entre mon obéissance dans le monde naturel et la puissance que je libère dans le monde spirituel. Il y a des dizaines d'exemples. Moïse est sur la montagne. Il lève ses mains. Tant que ses mains sont au ciel, Josué a la victoire dans la vallée. Ses mains commencent à fatiguer. Et il y a Aaron et Hur qui viennent porter ses mains, un de chaque côté. Tant que ses mains restent levées, Josué a la victoire. Quand ses mains se baissent, Josué perd du terrain. Connexion entre ce que tu fais dans le monde naturel. Ton comportement affecte ou libère la puissance de Dieu dans le monde spirituel. Un prophète vient voir le roi et dit au roi, « Roi, prends ton arc et tire des flèches à terre. » Le roi doute, il craint, il dit, « Ah, tu sais, c'est stupide de prendre son arc pour tirer des flèches à terre. » Le prophète lui dit, « Si seulement tu m'avais obéi à 100%, si seulement tu avais tiré beaucoup de flèches par terre, tu aurais eu une victoire totale. Mais comme tu ne m'as pas écouté, et comme tu n'as pas obéi, comme tu as douté, eh ben, tu auras une victoire partielle. » Acte dans le monde naturel, libère quelque chose dans le monde spirituel. Josué, fais le tour des murailles. Crie le 7e jour. Obéissance dans le monde naturel. Action dans le monde naturel. Puissance dans le monde spirituel. Tout d'un coup, des murailles s'effondrent. Un adorateur est un homme ou une femme qui obéit. Et par son obéissance et son intimité avec Dieu, active les embuscades de Dieu. Un adorateur qui marche là où il arrive, il ne peut y avoir que des victoires parce qu'il y a des embuscades de Dieu. Nos actes, attitudes libèrent ou interdisent la manifestation de la puissance de Dieu. Montrez-moi une maison dans laquelle il y a des adorateurs, je vous montrerai une maison dans laquelle il y a des victoires. Montre-moi une maison dans laquelle il y a des religieux et des gens qui font croire qu'ils adorent Jésus et je montrerai une maison dans laquelle il n'y a que frustration et douleur et des questions pourquoi Seigneur et comment Seigneur. Mais dans une maison où on adore Jésus, il y a victoire sur victoire sur victoire sur victoire. Parce que là où tu adores Jésus, tu tends une embuscade à ton ennemi. Dieu te dit, tu n'auras pas à combattre. Tu m'adores, tu pries, tu cherches ma face, tu es avec moi. Je m'occupe de tout le reste. Toi, fais ta part. Moi, je fais la mienne. Un jour, je priais. Et je me mettais à combattre l'ennemi. Et je me mettais à imaginer le diable. Je dis, tiens, voilà pour toi, Satan. Parce que ça m'a appris comme... Et Dieu me dit, mais pourquoi est-ce que tu te concentres sur l'ennemi quand tu te bats? La victoire vient de moi. Fixe tes regards sur moi. Et c'est ce que fait la louange. La louange, l'adoration te permet de fixer tes regards sur lui. Lorsque Dieu est dans ton champ de vision, le diable est dans son collimateur. Dernier point ce soir. Le premier point, c'était, pour ceux qui prennent des notes, ne fuis pas ta bataille. Le deuxième point, c'était, laisse Dieu placer une embuscade. Le troisième point, c'était... C'est quoi le troisième point? C'est ça, l'embuscade est libérée par ton adoration, ta louange. Le dernier point ce soir, c'est l'adoration est toujours productive. Je ne parle pas de ce moment où on chante des chants, je parle de notre adoration, d'accord? Écoutez bien ça, écoutez ce passage puissant dans Psaume 84, au verset 2 à 5, qui est dit « Oh, que j'aime tes demeures !» Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, mais il y a plusieurs demeures dans le monde spirituel, il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs parfums, il y a des moments où tu te retrouves dans un magnifique jardin, il y a des moments où il t'amène dans la salle du trône, il y a des moments où ce sera une magnifique pièce où on voit les anges danser et chanter pour Dieu. Il y a plusieurs demeures, plusieurs lieux. Éternel Seigneur des armées célestes, je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis. Mon être tout entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Je n'ai pas le temps de creuser, mais vous savez, le mot « être » signifie « ma chair ». J'ai remarqué une chose, quand un homme a calibré sa vie sur le monde de l'esprit, sa chair soupire après Dieu. Et quand un homme n'a pas calibré sa vie sur le monde de l'esprit avec Dieu, sa chair ne soupire pas après Dieu, mais après manger, dormir, faire ce que tu veux. Ta chair se soumettra à ton esprit si ton esprit est fortifié en Dieu. Verset 4. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits, près de tes autels, Éternel Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Verset 5. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer à toujours. Alors, question à vous poser. On va relire ce passage 84, verset 1, verset 2. Les fils de Corée ici écrivent, ils disent, oh que j'aime tes demeures. Verset 3. Je languis, je soupire, Éternel, après tes parvis. Verset 4. Le moineau découvre un gîte et l'hirondelle un nid où déposer ses petits. Mais bon, Seigneur, explique-moi, il est où le gars là? Il est dans la présence de Dieu, il adore Jésus, c'est parti, il était parvi, je soupire après toi. Mais le moineau et l'hirondelle, j'ai creusé, j'ai dit Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire? Voici la réponse. L'image ici est hautement prophétique, puissante. Ce que le psalmiste veut dire, il veut dire que lorsque tu adores Dieu, Dieu s'occupe de tes besoins. Il y a une multiplication. L'hirondelle amène ses petits. Les œufs sont posés sur les autels. C'est-à-dire qu'il y a la productivité. Un vrai adorateur reçoit le cœur de Dieu, les directives de Dieu, les stratégies de Dieu. Les clients apparaissent devant toi. Tu fais, c'est lui que je dois aller voir demain. Et tu commences à tellement être proche de Dieu que tu marches avec Dieu. Que c'est comme si tout d'un coup, pendant le temps où tu adores Dieu, les hirondelles peuvent venir déposer leurs tout petits près des autels de l'Éternel. Quel rapport entre un moineau, une hirondelle et ton adoration? L'adoration est productive. L'adoration génère une productivité. Mes amis, si vous comprenez ça ce soir, j'espère, je prie que ces quatre principes simples peuvent être gravés dans votre vie et que vous commencez à les appliquer sereinement dans le Saint-Esprit. J'accepte tes batailles. Je veux être à ma place. Je refuse de prendre part à des combats qui ne sont pas les miens, parce que si je prends part à un combat qui n'est pas le mien, je ne serai pas préparé pour ce combat. Or, je ne serai préparé que pour le combat que tu as pour moi. J'ai une mission sur terre, Seigneur. Tu m'appelles à faire ce que je dois faire. Je suis marié aujourd'hui, j'ai une femme. J'ai des enfants. J'ai une église. J'ai des amis, j'ai des voisins. C'est à moi de faire ce que tu veux que je fasse maintenant. Et tout d'un coup, tu te rends compte que tu ne sais pas comment t'y prendre. Et tu dis, Seigneur, il y a tellement d'ennemis, tellement d'attaques. Tu te mets à adorer le roi, à l'inonder de ton amour. Et il tend une embuscade au rythme de tes louanges. Tout d'un coup, tu l'entends et il te dit, ne t'inquiète pas, mon fils, je vais me battre à ta place. C'est mon combat. Alors que tu adores Dieu, c'est comme si les hirondelles viennent déposer ses petits. Tout d'un coup, tu te rends compte qu'il n'y a jamais trop longtemps de désert pour un adorateur. Un adorateur sait que son Père prend soin de lui. Et ce soir, j'ai ce message simple pour vous faire réfléchir un peu à ce que Luc a apporté le week-end dernier, sur vos champs, votre productivité, ce que vous devez faire. Et j'aimerais vous faire ce soir réfléchir, c'est différent ce soir. Mais vous faire réellement réfléchir à Seigneur, ma vie chrétienne, là, maintenant même, au moment où je te parle, Seigneur. Est-ce que vraiment je suis capable de te dire en face que je suis tellement un adorateur que je sais exactement que tu combats pour moi, parce que je n'ai jamais vu un adorateur s'inquiéter. Je parle d'un vrai adorateur. Celui qui a un style de vie d'adoration. Cherchez d'abord son royaume et sa justice et tous vos besoins seront comblés. Tout. Dernièrement, un frère me pose la question, je ne comprends pas pourquoi les chrétiens souffrent. Pourquoi les chrétiens, je dis mon ami, mais le problème n'est pas que les chrétiens souffrent. Ça c'est normal. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Le monde m'haït, il va vous haïr aussi. Vous aurez des problèmes, mais ne vous inquiétez pas. J'ai vaincu le monde. Je suis avec vous. Vous êtes persécutés, mais ce n'est pas grave, je serai avec vous. Donc ce n'est pas le problème, la persécution. La persécution, c'est bien. C'est bien la persécution. Parce que la tempête révèle qui tu es vraiment en Christ. La bataille révèle qui tu es appelé à être. Écoutez bien ça. Dis-moi quelle est la taille de ton ennemi. Je te dirai quelle est la taille de ton toi spirituel. Si l'Église, en France, continue à ne pas relever les défis que Dieu a pour elle, si l'Église, à La Réunion, continue à faire comme si Dieu va agir sans nous, alors oui, la nation ira mal. Mais si l'Église de Christ ce soir, si vous et moi, chacun, nous prenons notre place, si vous et moi, nous commençons à relever les défis que Dieu a pour nous, commençons par nos familles, nos mariages, nos enfants, notre église, notre quartier. Je vous garantis, la lumière de Dieu va jaillir dans nos vies, comme jamais auparavant. Qui ce soir a besoin que Dieu prenne en main le combat? Alors, il y a deux types de personnes pour qui je veux vraiment prier ce soir. Très simple. Il y a ceux qui se battent avec leur propre force. Vous êtes dans le bon combat, vous avez le bon combat, c'est bien, c'est bon, vous êtes bien aligné. Mais vous y allez avec votre propre force, lorsque Dieu dit « Laisse-moi m'en occuper, toi adore-moi ». Vous voulez aider un peu Dieu, comme si Dieu a besoin d'aide. Comme il dit à Job, « Job, où étais-tu quand j'ai créé la terre, le ciel et tout ce qui s'y trouve ? Tu étais où ?» Si tu peux le dire à Job, il peut le dire à moi, il peut le dire à vous. Deuxième type de chrétien ce soir, c'est un peu plus délicat. C'est ceux qui ont pris part à des combats qui ne sont pas les vôtres. Et là, je ne peux pas vous dire c'est quoi, vous devez le savoir. S'il y a un manque de paix, si tu sais, ce combat-là, ce n'est pas le mien. Je n'aurais jamais dû faire ça. J'ai fait une erreur. Ok, tu te repens et Dieu va te montrer comment restaurer l'erreur. Parce que rien n'est perdu avec Dieu. Rien. Rien. Et ce soir, Dieu veut t'encourager, Église, en te disant, je suis Dieu. Je veux prendre part à ta vie. Je veux que tu me laisses le plein contrôle. Je veux que tu me laisses, tu me fasses confiance. Vous lirez chez vous dans 1 Pierre chapitre 1, au verset, 7, 8, je ne sais plus très bien. On peut très bien ce verset qui dit, si Harold peut me la référence, j'ai donné cette semaine. Ouais, 8, 9, 10, 11. C'est lorsqu'il parle de Christ, vous croyez en lui sans le connaître, juste après, je crois. Hein? 22, verset 22, c'est ça? Non, c'est pas ça. Juste dans ce... Les gars, aidez-moi. 8. C'est 8. Merci. Lui que vous aimez... Verset 7. On va commencer par 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange... Le résultat de l'épreuve, c'est la louange. Le départ de l'épreuve, c'est la louange. La victoire dans l'épreuve, c'est la louange. Et le résultat dans l'épreuve, c'est la louange. La gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. Écoutez bien ça, verset 8. Christ que vous aimez sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Écoutez bien ça. Combien d'entre vous ce soir, vous avez déjà vu le vrai Jésus physique qui vivait en l'an zéro? C'est ce que je pensais. Donc vous l'aimez sans l'avoir vu. Combien ce soir, vous croyez en lui sans l'avoir vu? Pierre dit ici, et le grec le dit parfaitement, le grec dit, votre foi en Dieu, en Christ, vous remplit de joie. Ça veut dire que mon niveau de joie, écoutez bien ça, mon niveau de joie reflète mon niveau de confiance en Dieu. Quand je me mets à adorer Jésus, à louer Dieu, à me réaligner dans son cœur, à le chercher tout simplement, je vous garantis que l'un des premiers fruits avec la paix, c'est la joie. Et la paix qui surpasse toute intelligence remplira vos cœurs. Ce soir, on va finir ce moment. Il est pas tard exprès. J'ai senti dans mon cœur de faire court et vous laisser avec le groupe de louanges, s'il vous plaît. Vous pouvez rester assis, mais je vous encourage ce soir, faites quelque chose de très simple. C'est-à-dire, mettez de côté votre routine, votre habitude de chanter pour chanter, si c'est votre cas. Mettons de côté cela et je m'adresse d'abord au groupe de louanges. Vous encouragez, lorsque vous chantez, vous jouez, lorsque vous adorez Jésus, faites-le de manière à ce qu'il ce soit... Moi, quand j'adore Jésus, c'est comme si j'allais mourir ce soir. Vous savez, pendant que les groupes de louanges prennent place, hier, j'étais avec le staff, avec mon équipe hier matin, et je leur parle de l'épreuve, de la joie, je bombarde les gars. Je rentre dans mon bureau, après le staff, et le dit m'écrit « Appelle-moi vite, s'il te plaît ». Quand ma femme me dit ça, c'est que c'est important. Donc j'arrête mes rendez-vous avec la Suisse, ou je ne sais pas quel pays c'était. J'appelle ma femme, elle me dit, ma petite fille Anna s'est coincée le doigt méchamment dans un chariot. Il faut aller aux urgences. Son ongle s'est séparé du doigt. Il faut le remettre dans le lit. Elle a 6 ans, c'est très douloureux. Elle est tombée dans les pommes avec la douleur. Je monte, je la prends à l'hôpital. J'ai eu le choix de dire, pourquoi Seigneur? Je te sers, je prêche ton évangile. Seigneur, je suis un bon pasteur quand même. Je vais à l'église tous les dimanches, je chante 4 chants par dimanche. Oh. J'ai loué Dieu, j'ai adoré Jésus. Et j'ai parlé pendant plusieurs heures à ma petite fille dans mes bras, qui ne voulait pas quitter mes bras. Et je parlais avec elle. Et elle me dit, papa, pourquoi j'ai vécu ça? Qu'est-ce qui se passe, papa chéri? Elle a dit deux choses. Émilie était présente. Elle a dit, premièrement, Maman, s'il te plaît, appelle Jésus. La même chose. Et papa. Chérie, t'as vu Jésus, papa. Et j'ai annulé tous mes rendez-vous. Et ma fille était ma priorité. Si moi, un papa humain, méchant comme je suis, je peux annuler tous mes rendez-vous pour ma petite fille qui s'est coincée le doigt, ne croyez-vous pas que ce soir, le Père Céleste sera présent pour vous prendre dans ses bras d'amour si vous l'appelez au secours? Je sais très bien qu'en ce moment, le week-end, on fait des appels et on veut vous encourager. Mais j'ai eu le cœur brisé le week-end dernier quand j'ai vu le nombre de chrétiens se lever en disant « j'ai un problème ». Je dis « Seigneur, non, ce soir, il faut que tu me donnes une solution. » Il m'a dit « j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon fils. » Je dis « c'est quoi ? Ce n'est pas toi la solution. » Je dis « gloire à Dieu. » Il dit « la solution, c'est qu'il se connecte à mon cœur. C'est qu'il m'adore. Comme l'ont fait le peuple avec Josaphat, ils ont adoré Jésus avant le combat. » Et à l'instant, rappelez-vous, au moment où le peuple a adoré, Dieu était en train de tendre une embuscade. J'aime ça. C'est pour ça que vous me voyez foufou parfois, en vous disant « crier, les anges sont là !» Parce que je vois ce qui se passe quand j'adore Dieu, je vois Dieu, les anges prendre place, une embuscade se place, l'ennemi court, l'ennemi ne sait plus quoi faire, il perd son dentier et tout. Si seulement on pouvait ce soir venir ou revenir avec un cœur d'adoration. T'as un problème avec tes enfants en ce moment, dans tes finances? Cherche pas à avoir une réponse toute faite pour un problème complexe. Cherche à lui faire confiance. Il a toutes les solutions. Ça peut être miraculeux et instantané comme miraculeux et sur du long terme. Mais ce sera toujours miraculeux.